L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une porte de cellule. L'ouverture d'une... L'ouverture...
Je regarde s'ils sont présents, et je les fais bouger pour voir s'ils sont bien vivants.
Vous allez rencontrer des psychiatres, des psychologues. Ils sont observés en permanence, en permanence, en permanence. Les surveillants participent à l'observation. Vous allez rencontrer des psychiatres.
Bon, messieurs, distribution des couteaux.
Le rôle de l'administration pénitentiaire s'est écrasé. Humilié. Déshumanisé.
200 000 francs la télé.
Un matin.
Salut à tous, donc vous êtes sur le 895 de Radio Audio, vous écoutez l'émission Papillon comme tous les premiers dimanches du mois à la même heure de 17h30 à 19h. Donc l'émission Papillon, c'est l'émission sur la prison, sur les lieux d'enfermement et puis le monde qui va avec. Donc on rappelle vite fait quand même que le principe de l'émission, c'est de faire le lien entre le dehors et le dedans. Donc pour ça, et bah, si vous êtes à l'intérieur ou à l'extérieur, si vous êtes proche de détenus, etc., ou concerné de près ou de loin par la prison, vous pouvez nous écrire au émission Papillon chez Radio Audio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42 002 Saint-Étienne CEDEX 1. Donc on rappellera l'adresse à la fin de l'émission. Donc là dans les studios, on est presque au complet. Il manque juste Marc, qu'on salue bien s'il nous écoute. Et voilà, alors on rappelle que cette émission, elle sera rediffusée sur cette même antenne de Radio Audio 89.5 le vendredi 14 mai à 10h30 et, ou alors sur www.radioaudio.org et sur Lyon, sur Radio Canu 102.2 le mardi 18 mai à 20h ou sur Radio Canu, le site internet de Radio Canu en streaming. Donc voilà, alors dans cette émission, on va vous parler... Alors essentiellement, on va avoir un petit dossier sur les fichiers concoctés par l'administration pénitentiaire sur les détenus, donc les fichiers de comportement, etc. Donc on verra comment la prison, l'administration vous fiche et vous catégorise, etc. Et on va aussi parler, en fait il y aura une interview d'une personne qui est venue nous voir à Saint-Étienne vendredi soir. Elle s'appelle Nadia Ménanger, en fait elle a... écrit un livre sur un détenu qui s'appelle Thierry Chadbi, et du coup à travers son parcours elle revient essentiellement sur toutes les luttes qu'il y a eu dans les prisons en France dans les années 80. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite sur les fichiers, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
Non, bah juste bonjour à tous et à toutes, voilà, on est mal poli. Ouais, alors en fait on voulait faire le point sur le système de fichage des détenus. Parce qu'il y a eu récemment quelques petits changements et en fait, ça se ressent et ça, c'est grâce à un témoignage qu'on a su ça. Il y a vraiment des conséquences sur le quotidien de la détention, en fait. Donc voilà. Donc on va faire un petit point. Alors, donc avant, il existait un fichier national officiel, donc qui existe toujours et qui s'appelle le fichier national automatisé des personnes incarcérées. Donc ce fichier. Il touche essentiellement à la gestion des affectations pénitentiaires et à la production de données statistiques, donc pour le ministère, etc., l'administration, etc. Et donc, ces données touchent à l'identité, à la situation familiale, à l'incarcération, à la situation pénale, aux statistiques des établissements, si les plans 13 000, tout ça, et à la situation professionnelle de la personne incarcérée. Et ce qui est intéressant dans ce fichier, c'est de savoir qui peut consulter ces infos. Et donc, il y a l'AP et les personnels habilités par l'AP. Mais bon, après, on peut toujours se demander qui y a accès, etc. Il doit très certainement y avoir des fuites. Les magistrats, les flics, le directeur général du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres agents habilités donc dans cette association. Et voilà. Donc là, ça fait quand même déjà un fichier assez conséquent en termes de contenu et en termes de personnes qui peut y avoir accès, en fait. À côté de ça, vraisemblablement, il y avait aussi des fichiers plus propres à l'établissement dans lequel les personnes sont incarcérées, en fait. Donc ça, c'était des fichiers qui, vraisemblablement, ne sont pas officiels. C'est super difficile d'avoir des infos sur ça. Et là, c'est vraiment des fichiers qui restent peut-être plus aléatoires ou quoi. Mais en tout cas, il y avait un fichage qui se faisait, mais qui n'était pas déclaré, pas officiel, en fait. Et là, en fait, il y a un nouveau fichier qui vient de sortir, en fait, enfin, dont on vient apprendre l'existence. Et en fait, ce fichier, donc, il concerne tant les prévenus que les condamnés. Et il est né, en fait, dans le cadre de la, enfin, il se situe, en fait, dans, parce que là, il y a toute une campagne de labellisation des établissements pénitentiaires en France. Et ça, c'est dû, en fait, avec tout le suivi sous couvert un peu des règles pénitentiaires européennes, en fait, de l'application des règles européennes en matière de prison, tout ça. Donc, ils nous pondent là une labellisation des établissements français. Et en fait, dans ce cadre-là, et notamment la labellisation de la maison d'arrêt de Saint-Étienne, elle est prévue pour 2011. Mais cette labellisation comporte plusieurs aspects. Par exemple, ça va être, je ne sais pas, les normes sur les cellules, des trucs comme ça. Et il y a un aspect sur le fichage. Et là, ça devient intéressant parce que c'est le flou artistique total. Et qu'on a eu, nous, on a eu une question justement sur ce fichage et qui recouperait ça. Et il y a l'OIP aussi qui a porté plainte auprès de la CNIL. Et après, on expliquera un peu comment ça s'est passé. Mais par rapport à ce fichage, parce que vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Et ce fichage vise surtout à définir des profils de comportement de détenus, en fait. Alors, officiellement, ce qu'ils disent, c'est que... Donc, il s'appelle le cahier électronique de liaison. Et il a commencé à être mis en place dès 2009, en fait. Et ça, ça n'a pas trop fait écho dans la presse. On n'a pas entendu parler. Bien évidemment, les premiers concernés par leur détention, ils ne sont pas du tout au courant de ce fichier. Et ce cahier électronique de liaison, donc, il est alimenté par plein d'intervenants, tous les intervenants de la pénitentiaire, que ça soit le maton en passant par l'enseignant en allant au médecin. Donc déjà que le secret médical en prison, c'était pas vraiment du secret médical, mais alors là il y a vraiment un truc qui se fait, qui officialise le truc de secret médical qui est pas présent, en fait. Donc voilà, et du coup, donc c'est alimenté par tous les intervenants, mais aussi c'est mis en partage. Toutes ces informations sur cette personne, par exemple, sur la personne enfermée, seront mises en partage par tous les personnels de la pénitentiaire, quels qu'ils soient, quoi. Donc voilà, et ça dans le but d'avoir une connaissance précise des personnes incarcérées et faciliter la gestion du service. Voilà, gros classique. Et du coup, quand il parle d'une connaissance précise des personnes incarcérées, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc ça dresse des profils de détenus, mais avec des grilles d'évaluation qui touchent à définir une dangerosité, en fait, du détenu. Donc voilà. Donc alors des critères de dangerosité. Donc ça veut dire que les personnels de surveillance, donc les matons, ils vont aller alimenter un fichier sur la dangerosité des détenus avec une grille, genre par exemple. Un exemple tout con qu'on a, c'est est-ce que la personne suit un traitement psy, admettons. Ça va être ça la question. Oui ou non. Et si par exemple c'est oui, donc le médecin coche oui, donc comme dans un test, calculer vos points fidélité, vos points amour, machin, et ben si c'est oui, ben, ça va être calculé comme un point de dangerosité, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un truc... Et du coup, la dangerosité, toujours cette éternelle question par rapport à qui, par rapport à quoi. Parce que, par exemple, un maton qui va dire « Ah, telle personne, elle est dangereuse. » Mais genre, quand on vient t'arracher tes photos que t'as dans ta cellule parce qu'elle déborde du cadre qui t'est réservé pour coller tes petites photos et que ça, c'est un maton qui fait ça, que toi, tu t'énerves parce que forcément, les photos, t'as pas envie qu'elles soient foutues par terre, t'as envie de les poser où tu veux dans ta cellule. Donc là, t'es considéré comme dangereux, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est un truc qui est auto-alimenté. Et là, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment des pistes, un début de réflexion par rapport à ce que c'est vraiment ce fichier et tout. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important aussi de l'intérieur d'avoir des infos par rapport à ça, en fait. Et donc là, c'est vraiment, voilà, ce fichier, comme tous les fichiers, vise vraiment à cadrer, à... et puis bah, ça participe vraiment à une répression. Et par exemple, dans le quotidien, c'est un truc tout con, hein, dans le quotidien, et ça, on a un exemple de ça, une personne qui souhaite changer, passer, qui souhaite améliorer le quotidien de sa détention, qui, admettons, souhaite passer au quartier des travailleurs bah, pour que ce soit un peu plus tranquille et tout, et ben, c'est des refus systématiques sur... sur 6 mois, voire plus. Et en fait, au bout d'un moment, la fuite d'un surveillant le permet de dire « Bah non, en fait, c'est à cause de ce fichier, quoi. » Donc, en gros, c'est vraiment un truc du quotidien, ce fichage de... Ce profil de détenu gère vraiment le quotidien des personnes incarcérées. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... en fait, il y a eu... alors, j'ai plus les dates en tête et j'ai pas le papier sous les yeux. Il y a une réunion, en fait... une réunion de médecins, en fait, où il y a une réunion super officielle avec l'ordre des médecins, etc. Et il y a la responsable santé du service pénitentiaire qui est venue, en fait, pour présenter ce fichier et le vendre. Et dire, il faut le remplir, quoi. Et sauf que même l'ordre des médecins, qui est quand même pas super situé gauche ou quoi, enfin, qui est plutôt, voilà, même eux, ils se prononcent contre ce fichier, en fait. Donc, voilà. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'OIP, en fait, ils ont porté plainte. Alors ça, c'est quand même une info. Ils ont saisi la CNIL, en fait. Alors, Alex, je te laisserai peut-être si tu as des commentaires à faire. Non ? Non, d'accord. Donc, en fait, ils ont saisi la CNIL, justement, parce que... alors, attendez, je retrouve mon petit passage. Je suis désolée. Voilà. En fait, la création de ce fichier, elle n'a pas donné lieu à une procédure de consultation de la CNIL, comme le prévoit la loi. Et du coup, lors d'une réunion interne à l'administration pénitentiaire le 1er février 2007, l'AP a souligné le fait que les fichiers n'étaient pas utilisables. L'AP eux-mêmes l'a dit, ces fichiers ne sont pas utilisables parce qu'il n'y a pas eu cette consultation préalable auprès de la CNIL. Et pourtant, ils ont quand même pris la décision, une semaine plus tard, d'avoir recours à un logiciel de suivi comportemental dans le cadre de la démarche d'expérimentation des règles pénitentiaires européennes. Donc voilà, sous couvert de visage des prisons, les prisons humaines, les prisons... voilà.
Mais du coup, ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que ce fichier n'existe pas, mais que
ce fichier existe. Ce fichier existe et est utilisé en prison.
D'accord, parce que je me disais, c'est peut-être juste le logiciel qui est utilisé, mais le fichier n'existe pas, mais ce qui revient au même, en fait.
Bah, c'est la même chose. Ouais. Donc voilà. Donc en gros, voilà, c'est vraiment... on savait que le fichage des détenus, voilà, orientait comme les trucs DPS, tout ça. Mais là, il y a vraiment un truc de format... Et puis, bah, de profil de dangerosité. Enfin, ça fait penser aux séries américaines, les profilers et compagnie, quoi. Enfin, donc voilà.
Il y avait... parce que dans l'exemple, en fait, qui nous avait un peu fait nous avoir envie de faire des recherches un peu sur ce fichier, il y avait donc dans cet exemple... La personne en question qui n'avait pas accès au travail, elle avait appris que c'était notamment sous prétexte qu'il y a super longtemps, avant même d'être en prison, il aurait fréquenté tel ou tel groupe.
Ouais.
Donc, en gros, je ne sais pas si toi, tu as trouvé les infos. Est-ce que ça veut dire que la fiche RG, par exemple, est dedans ?
Justement.
Les infos des flics ?
Ouais. Alors, en matière d'alimentation du fichier, justement, de ce fichier-là, il n'y a pas d'infos. Il y a vraiment, c'est le néant, c'est le flou sur les infos. En matière d'alimentation, on ne sait pas. Pareil, moi, ça me posait plein de questions. Juste, par exemple, est-ce que, tu vois, tu dis, ouais, des infos ressortent de telle et telle année. Par exemple, un truc de dangerosité comme ça, de comportement. Est-ce que, par exemple, admettons, dans 10 ans, la personne, elle retourne en prison, on va lui sortir une fiche de comportement d'il y a 10 ans?
Ouais, ou de son embrouille qu'elle a eue avec un détenu ou un maton il y a 10 ans.
C'est juste super, super hallucinant. Enfin, c'est un boulet au pied, quoi, ce fichier.
Et en fait, c'est marrant parce que, en fait, il y a plein de fichiers dans tous les sens, dans toute la société qui se mettent en place et tout. Alors, je sais pas, je pense à la carte vitale qui est quand même un truc pour ficher tous tes actes de santé et les mettre dans un truc centralisé. Il y a base élève. Un truc dans les écoles où il y a plein de mobilisations contre, il y a le fichage ADN et tout. Et en fait, moi, ce que je trouve marrant, entre guillemets, c'est que ça vient petit à petit et on s'y habitue, en fait. Au début, on se dit « Ah, mais quand même, ça craint. » Puis après, on s'y habitue. Et puis au bout d'un moment, on se dit juste que c'est un truc de gestion, on ne voit plus vraiment... C'est dur d'expliquer, en fait, pourquoi c'est grave.
Ah bah, c'est « on t'habitue », quoi. C'est cette phrase, quoi, c'est « on t'habitue ».
Ouais, et en fait, c'est des... des détails, des altercations, un petit souci que tu as eu ou un aspect de ta vie qui est soit faux, soit complètement interprété d'une manière n'importe comment, qui vont être mis dans un fichier et qui vont te coller à la peau toute ta vie, quoi. Mmh.
Et puis en plus, il y a vraiment le truc qu'il faut se dire, c'est pas un truc... c'est pas un truc nouveau qui est sorti nulle part, en fait, c'est juste une continuité. Enfin, je prenais l'exemple du secret médical. La dernière fois, j'entendais une interview de Laurent Jacquat et il expliquait que, par exemple, le secret médical en prison, de par sa détention, il peut dire non, ça n'existe pas le secret médical. Quand tu vas chez le médecin, si le médecin est pas trop con, il dit bah non, les flics ils rentrent pas dans la salle. Mais généralement, il y a peu de médecins les médecins autorisent la présence des flics dans la salle. Tu passes à l'hosto, tu passes en salle d'opération avec les flics dans ta salle, au cas où, tu vois, avec ton masque, si tu vas te réveiller alors que tu es sous oxygène et tout. Et juste que ça, en fait, c'est juste une... Enfin, ça formalise, en fait, par exemple, sur cet aspect du secret médical, ça ne fait que formaliser ce qui existe déjà, en fait, en termes de partage. Parce que les matons qui emmènent les flics qui font les escortes jusqu'à l'hôpital, après ils vont bien dire ah ben, il avait ça, il avait cette tête là ou je sais pas, enfin c'est un truc, donc ça fait
surtout que formaliser. Surtout tu voulais ma réponse par rapport à la CNIL, en fait, mais là je vois sur le papier que tu as fourni, en fait il y a marqué la création de ce fichier n'a pas donné lieu à une procédure de consultation de la CNIL. Ouais. De toute façon ils passent la plupart du temps outre la CNIL, et même quand ils saisissent la CNIL de toute façon sert même pas de garde-fou. Elle accepte tout en permanence.
Oui, ouais. Après, souvent...
Parle dans le micro, Alex.
La CNIL, en fait, elle a, je crois qu'elle a quand même un pouvoir répressif dans les cas où, par exemple, les gens n'ont même pas respecté la procédure de base qui par exemple, dans ce cas-là, c'est la CNIL, de toute façon, elle a qu'un rôle consultatif, etc. Mais ils ont quand même un pouvoir répressif sur les entreprises ou l'administration pénitentiaire qui ne respectent même pas la base, en fait.
Dans le micro, Alex.
Est-ce qu'il est utilisé?
Après, il est utilisé, oui, après, au niveau des chiffres, moi, il me semble avoir regardé sur le site de la CNIL à un moment donné, et il n'y a pas beaucoup de procédures, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a très peu de procédures comme ça de répression où la CNIL, ils vont dans des lieux où... Et que du coup, ils utilisent ce pouvoir répressif-là. C'est minime, quoi.
Bon, la CNIL, on rappelle, on en parle depuis tout à l'heure, c'est la Commission nationale informatique et liberté. Voilà. Et ce qui est marrant, tu disais que ça datait de 2009, ce fichier-là.
Ouais.
Et bon, on peut encore faire le parallèle avec l'extérieur, hein, c'est que c'est en 2009 qu'il y a eu la tentative, enfin la création de Edwige, Christina, tout ça, il me semble. Donc,
en 2008, ils ont commencé à parler de l'application des règles européennes en matière de pénitentiaire. Et en 2009, ils ont commencé à le mettre en place dans certains établissements. Et du coup, ça se généralisait dans les différentes phases avec les différentes vagues de labellisation.
Ouais, voilà, mais bon.
Mais en tout cas, Synthé, ce fichier existe et la labellisation se fera pour 2011. Donc je pense qu'il y a encore d'autres surprises en attente.
Et après, il y a ce truc aussi dont tu parlais. Et en fait, ce qui est difficile par rapport au fichier, c'est... à la fois arriver à comprendre soi-même ce qui peut gêner là-dedans, et aussi le fait, comme tu dis toi, tu cherches des informations.
Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Et tous les fichiers à l'extérieur, c'est la même chose. C'est qui a qui écrit quoi, dans quel fichier. Il y a à la fois les fichiers qui sont légaux, ceux qui le sont un peu moins, etc. Et qui fait que c'est hyper compliqué d'arriver à lutter là-dessus, parce qu'en fait, on ne connaît pas. Mmh. On connaît hyper mal tous les fichiers, qui les alimente.
Moi, je crois qu'il ne faut pas se poser ce genre de questions, que ça pourrait donner un prétexte, qui les alimente ou à quoi ça sert, on s'en fout. Ça, c'est que du blabla derrière. Après, le fait qu'ils fassent un fichier, ça, c'est grave. Après, quelle que soit l'utilisation qu'ils en aient derrière, peu importe.
Oui, il y a ça, mais dans la pratique, c'est aussi hyper compliqué. À un moment donné, tu as quand même besoin d'identifier... qu'est-ce qu'une personne peut savoir sur toi, par exemple, quand t'es en garde à vue. Il y a des moments où on va pouvoir te sortir des trucs que t'aurais même pas pensé, et des moments, la base dont tu penses, par exemple, sur une garde à vue, si t'as un casier, tu dis ça, ils vont le savoir. Et il s'avère des moments que tu pourrais très bien mentir en disant j'ai pas de casier, parce qu'ils le savent pas. Alors que tu t'es pris des mois de prison avec sursis, mais ils le savent pas. Et donc ta façon d'agir, etc., c'est hyper important de savoir ce que les gens peuvent savoir sur toi.
Mais apparemment, là, avec ces nouveaux fichiers, ils sauront tout, quoi. Enfin, ils fichent tout sur les manifs, sur à l'extérieur, comme tu dis, de la carte vitale, à ce que tu fais, à qui tu fréquentes. Tout est fiché, en fait. Et là, c'est, ils regroupent toutes les infos les unes aux autres. Et ce qui est grave, c'est qu'ils les créent, ces fichiers. Ce qui est difficile, effectivement, c'est d'avoir des informations dessus. Mais du moment qu'ils les créent, c'est dans le but de les utiliser, quoi.
En fait, moi, je veux juste répondre parce que du coup, on est quand même pressé par le temps. En fait, c'est quand même important de savoir qui a accès à ce genre d'informations. Parce que, par exemple, pour le fichier national automatisé des détenus, là, tu vois que dedans, il y a le président de l'association du fonds d'indemnisation pour les victimes. Et là, c'est quand même pas anodin. Ça montre qu'il y a déjà une présence, tout ce discours autour de la victime et tout. Mais après, là, c'est encore un autre sujet. Donc moi, je pense qu'il y a certaines questions. Je suis d'accord avec toi sur le truc. Bah voilà, il y a ces fichiers qui sont créés. Mais c'est quand même, pour avoir toutes ces informations, il y a un flou qui est entretenu autour de tout ça. Et je pense que c'est vraiment pas pour rien.
Mais c'est parce que tout le monde pourra y avoir accès, comme tu dis. Du moment que c'est sur Internet ou sur l'ordinateur, ils auront qu'à cliquer et puis... voilà, tous les gens de la pénitentiaire peuvent y avoir accès.
Donc du coup, voilà, en tout cas, si vous êtes à l'intérieur et que franchement, essayez de choper des infos, essayez de voir aussi, il y a peut-être des recours à faire par rapport à ça, parce que ça conditionne une vie en détention à long terme, enfin à court terme, mais à long terme, enfin c'est... Voilà.
Moi, je voudrais juste dire qu'en fait, ça montre qu'enfermer quelqu'un, c'est pas juste... le mettre de côté dans une petite cage, ce qui est déjà horrible, c'est aussi le déposséder complètement de sa vie, quoi. Et ces fichiers, c'est ça, c'est... Tu t'es dépossédé de tout, on sait tout sur toi.
Les décisions, tout. Ton quotidien.
Ouais. Et on pourra en parler, ces histoires de fichiers, parce que la discussion pourrait être longue sur ça.
Ouais. On va passer faire une petite pause musicale. On va passer...
morceau de Clash.
Voilà, tout à fait.
Du Clash.
Baby, why?
voilà, donc vous écoutez toujours l'émission Papillon sur Radio Dio. Et maintenant, on va enchaîner avec un espèce de petit retour sur une soirée qui s'est passée vendredi. Là, c'était le 30 avril à La Dérive. Et il y avait Nadia Ménanger qui présentait son livre « À ceux qui se croient libres ». Voilà, c'est un livre sur un ancien prisonnier longue peine qui s'appelait Thierry Chadby. Et qui a été en tôle pendant 25 ans, en gros, de la fin des années 70 aux années 2000. Et elle a écrit, en fait, il est mort, il s'est suicidé pas longtemps après être sorti. Et donc, elle a recueilli des textes de Thierry Chadby et de ses amis pour les collecter dans ce bouquin. Voilà. Et ça parle de tout son parcours dans les prisons. Ça illustre un peu pas mal de trucs qui se sont passés dans les prisons françaises depuis 30 ans. Ça parle de lutte dans les prisons. Et voilà, ça permet de réfléchir à pas mal de choses. Donc, on a enregistré la discussion. Elle était longue et très riche. On a essayé de vous en restituer quelques extraits, voilà, donc qu'on va vous laisser écouter maintenant. Donc, on a dû choisir certains trucs et en enlever d'autres. Le son est peut-être un peu bizarre, voilà, et le montage est fait à l'arrache. Donc, soyez indulgents, hein, on a dû faire tout ça à l'arrache. Donc, voilà, maintenant, on va pouvoir écouter Nadia Ménanger à propos du livre « À ceux qui se croient libres » sur et par Thierry Chadby.
Bon, j'ai écrit ce bouquin parce que ça retrace un parcours singulier, mais à travers ce parcours singulier, ça parle à la fois d'un prisonnier qui a été incarcéré à la fin des années 70 jusqu'à 2006. Donc ça permet d'avoir un point de vue et un recul sur 30 ans, à peu près une trentaine d'années, voir comment les conditions d'incarcération, la population carcérale a évolué au cours de ces 30 ans. Ce qui me paraissait important, bon, Thierry Chadby, c'est un prisonnier social. C'est un homme qui a été incarcéré très très jeune, puisque dans un premier temps, il a d'abord fait un parcours institutionnel de l'enfermement. Il a été d'abord pris en charge par les institutions religieuses à partir de 14 ans, puisque sa famille s'est déchargée auprès de ces institutions. C'était à l'époque des institutions extrêmement dures et violentes. Ça commence comme ça, le bouquin, sur son enfance, puisque donc lui a été incarcéré très jeune, d'abord dans ces institutions. Après, il a été en maison de correction, puisque dans les années 70, il y avait encore des maisons de correction. Ceci dit, elles ont été revues au goût du jour, puisque maintenant, avec les CEF ou même l'incarcération de plus en plus jeune, ce qui n'existait pas à l'époque, on peut retrouver des jeunes à partir de 14 ans dans les prisons. C'est assez récent, mais bon, pour essayer d'expliquer à travers son parcours combien il était délirant d'incarcérer des jeunes gens. Après, il a fait l'inauguration des centres de détention pour mineurs, puisqu'il a été incarcéré à Fleury-Mérogis. Après, il a été en maison d'arrêt et après en centrale de haute sécurité. C'est quelqu'un qui a été incarcéré pendant 25 ans. Et 6 mois après sa dernière peine, il s'est suicidé. Et c'est vrai que ça nous a tous laissé un certain nombre mal à l'aise, parce que c'est quelqu'un qui s'était toujours battu à l'intérieur. Et moi, personnellement, je pensais que des gens qui se battaient étaient plus capables que d'autres d'affronter la réalité de l'extérieur et de pouvoir s'en dépatouiller, ce qui n'a pas été le cas. Pour certains qui arrivent à s'en sortir, combien ne s'en sortent pas? C'est-à-dire où se suicident, deviennent fous, sont réincarcérés et finissent leur vie en détention. Et ce qui me paraissait intéressant, c'est d'abord de retracer le parcours d'un prisonnier social. Dans les prisonniers sociaux, Thierry, c'était quelqu'un qui avait fait des braquages. Hein. Bon, c'était un voleur de banque. Que c'est des hommes et des femmes qui ont aussi une pensée politique et qui ont un regard sur le monde qui me paraît assez intéressant et qu'il est important de partager. Je trouvais que c'était intéressant aussi de revenir sur cette période des années 80, parce qu'autant il y a des écrits à travers des intellectuels qui ont pu faire partie du JIP et après du CAP dans les années 70, où il y a pas mal de documents qui retracent la lutte des prisonniers de cette période-là. Autant dans les années 80, il n'y avait aucun document, alors qu'il y a eu une dizaine d'années vraiment extrêmement riches en mouvements à l'intérieur, en critiques sociales, en textes qui sont sortis. Et je trouvais que c'était important de les faire partager.
parce que du coup, c'est une période qui est plus proche de la nôtre, même si on verra après qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé et qui, du coup, font que c'est plus difficile aujourd'hui de se battre qu'à l'époque. Donc, à travers son parcours, j'ai voulu, bien sûr, faire un livre contre les prisons, à travers son histoire à lui, mais pas seulement, puisque j'ai aussi interviewé d'autres prisonniers qui ont pu le rencontrer, et en tous les cas, c'est toujours des amis de Thierry. Donc à la fois c'est quelqu'un qu'il a rencontré quand il était jeune et qui a eu le même parcours que lui. Il est toujours incarcéré à Saint-Martin-de-Ré. Et donc lui, j'ai fait son interview dans les parloirs. Après, j'ai fait une interview de Gaby Mouesca. Bon, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a été longtemps président de l'OIP, l'Observatoire International des Prisons. C'est un prisonnier politique basque qui a fait 17 ans de prison et qui est sorti il y a quelques années. Si je l'interviewais, et on reviendra sur le sujet, c'est par rapport au quartier d'isolement. Et puis aussi, j'ai interviewé un autre prisonnier qui est toujours en détention aujourd'hui à Moulins, donc dans une centrale de haute sécurité, et qui a pris 22 ans de sûreté il y a quelques années. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un qui a encore un long parcours devant lui de détention avant de sortir. Et j'ai voulu l'interviewer plus sur la question des longues peines, puisqu'ils se sont retrouvés à Saint-Maur en 2005. Donc, voir un peu les échanges qu'il a pu avoir entre eux après autant d'années d'incarcération. Si on revient sur les années 80, ça me paraît assez intéressant parce que c'est vraiment une période que souvent des jeunes gens connaissent mal et qui préfigure ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que là, c'est vrai que bon, ces dernières années, il y a eu vraiment une recrudescence de lois sécuritaires, mais elles ont une logique et qui vient de bien plus loin. Elles viennent entre autres de la fin des années 70, donc c'est important de voir le mouvement que ces lois sécuritaires ont. Elles ne viennent pas du début des années 2000, mais bien antérieurement. Dans les années 80, il y a beaucoup moins de prisonniers incarcérés. Et il y a essentiellement... j'ai oublié aussi j'ai interviewé un autre mec qui était un très très bon ami de Thierry, qui est sorti, qui est dehors, et qui des fois fait les discussions aussi avec moi. C'est quelqu'un aussi qui a participé aux luttes, puisqu'entre autres, il a participé à une mutinerie qui est celle d'Ensisheim, qui décrit assez précisément dans le bouquin. Il explique comment ça s'est passé, comment la chose s'est mise en place, comment ils ont tout détruit la prison, comment la répression s'est mise en place, etc. Donc, dans les années 80, il y avait essentiellement des gens... Bon, là, on est en train de vivre une crise économique, mais à la fin des années 70, on a eu aussi une crise économique. Donc, c'était le début du chômage, avec les 1 million de chômeurs, avec toute une volonté aussi de reprendre en main la question de la gestion de la pauvreté par l'incarcération. Donc c'est le début de l'allongement des peines, puisqu'ils mettent en place les peines de sûreté à la fin des années 70. Les peines deviennent de plus en plus longues, donc il y a ça. Et puis, ils viennent la plupart du temps des quartiers, des quartiers populaires. Et Thierry, il est assez symptomatique de cette population-là. Son père est ouvrier d'usine, émigré de première génération, donc il est issu d'un milieu relativement pauvre. C'était important aussi de parler de l'origine sociale des gens qui s'expriment dans le bouquin et qui font partie de ces mutineries et de ces révoltes à l'intérieur de la détention. Dans le bouquin, il y a toute une chronologie parce qu'on a du mal à se rendre compte à quel point ces mouvements ils étaient riches et réguliers. C'est-à-dire que là, vraiment, on vit dans une période où il ne se passe pas grand-chose, mais que ce soit à tous les niveaux, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu ces 10 dernières années, énormément de mouvements à l'intérieur de la détention. Dans les années 80, quasiment toutes les semaines, il y avait quelque chose, ou un refus de remontée de promenade, ou un mouvement à l'intérieur, une grève de la faim, qui petit à petit gonflait, les prisonniers arrivaient plus facilement qu'aujourd'hui à monter sur les toits. C'est arrivé à la fin des années 80 à des destructions complètes de prisons comme à Saint-Maur, Ensisheim, Moulins-Isère. Je me suis intéressée à la question carcérale, c'est parce qu'en 85, mon petit frère est tombé et il a pour un braquage, donc il s'est retrouvé en prison. Et c'est vrai que ça m'a forcée à m'intéresser à cette question-là, parce que j'ai été le voir, je l'ai visité et j'ai tout de suite voulu participer à des collectifs pour essayer de comprendre ce qu'était la prison et comment se battre contre elle. J'ai rencontré des gens sur Paris et on a créé avec un collectif à la fois une émission de radio qui à l'époque s'appelait Parloir Libre et puis un collectif de familles. Et moi, je faisais partie de l'association des parents amis de détenus. Et par la suite, on a créé un collectif qui s'appelait le Comité pour l'abolition de l'isolement carcéral. Dans cette histoire, on a rencontré énormément de prisonniers, puisque à l'époque, en tous les cas, les prisonniers témoignaient énormément par rapport à aujourd'hui. Et on recevait toutes les semaines, on recevait au moins une dizaine de lettres. Et ce n'était pas que des lettres qui témoignaient des conditions d'incarcération, mais c'était des lettres qui mettaient en critique la prison et qui essayaient de construire une organisation des prisonniers à l'intérieur et des mouvements. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était « nous, on est temps, on a telle revendication, le temps, on appelle à une grève de la faim ». Et la semaine d'après, c'était « voilà, il y a eu une grève de la faim, on était temps, on appelle les gens de Fresnes ou d'autres prisons de la région parisienne de se mettre en mouvement ». Et à chaque fois, on avait des témoignages sur comment s'était passé le mouvement, combien ils étaient, à quoi ça a servi et qu'est-ce qu'ils mettaient en place après. Et toutes les discussions sur quelles étaient les revendications centrales. Il y avait vraiment une volonté de créer un mouvement beaucoup plus général et national, mettre en avant des revendications prioritaires qui étaient à l'époque la suppression des quartiers d'isolement, la suppression du mitard et du prétoire, le droit d'association pour les prisonniers, le fait de qu'il n'y ait plus de statuts spéciaux, c'est-à-dire les statuts de détenus particulièrement surveillés, le SMIG pour les travailleurs. Il y avait un certain nombre de revendications comme ça qui étaient reprises à chaque mouvement. Et après, il y avait des revendications plus spécifiques à chaque prison. Il y avait les deux. Nous, on était à l'extérieur et on participait. On pensait que c'était important de faire une émission de radio. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important qu'il y ait des émissions de radio. Parce que même s'il n'y a pas toujours du courrier, les prisonniers écoutent. Et pour eux, c'est vraiment un lien avec l'extérieur et une nécessité de ne pas se sentir seul, de savoir qu'à l'extérieur, il y a des gens qui s'intéressent à à ce qui se passe à l'intérieur et que les mecs, ils ne sont pas tout seuls, quoi. Et qu'ils peuvent pas, il ne peut pas se passer n'importe quoi sans que ça se sache.
Et le titre, tu l'as pas donné, en fait.
Le titre, c'est « À ceux qui se croient libres ». Je voulais reprendre ce titre parce que, en fait, il y a une phrase qui revient souvent dans les textes à l'intérieur de la détention, comme ça, qui sortait dans les années 80-90. C'était « La prison existe pour faire croire aux gens à l'extérieur qu'ils sont libres ». Et je trouvais que c'était une phrase intéressante et du coup, je l'ai contractée de cette manière-là. Et parce que je trouve qu'il y avait aussi, chez Thierry et chez plein de prisonniers à cette époque-là qui se battaient, une volonté de faire comprendre leur situation aux gens à l'extérieur. C'est-à-dire, tu vois, de ne pas rester entre soi. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de témoigner. Il y a plein de prisonniers, mais pas seulement. Aujourd'hui, des mecs qui seront tabassés en garde à vue, ou des tas de situations comme ça, ou insultés par les flics, etc. Il y a une espèce de banalisation qui fait que du coup, bah, tu le dénonces même plus, quoi. Tu viens pas et tu dis « Ouais, il m'est arrivé ça, je me suis fait tabasser, machin. » Ou du coup, les prisonniers témoignent moins sur leurs conditions de détention, le dénoncent moins parce que ça s'est banalisé et que bon, c'est presque, ça fait partie du fonctionnement normal de la prison, du commissariat, de la rue, etc. Et moi, je trouve que c'est important de jamais penser que c'est normal. Parce que ce livre, il est aussi bien destiné aux prisonniers qu'il est destiné à vous tous, aux gens qui sont à l'extérieur, parce que la question de la prison, elle nous regarde tous. Je veux dire, c'est pas un problème que de ceux qui y vont. C'est un problème de la société en entier, de savoir si nous, en tant que communauté, on accepte l'existence des prisons. On accepte le fait de pouvoir imaginer enfermer d'autres hommes dans un cube de béton pour les punir de quelque chose. C'est cette question-là qui est posée. Et c'est pour ça que je pense qu'elle regarde toute la société. Et c'est pour ça que je tenais à ce titre. Parce que je pense que les gens, ils se croient libres à partir du moment où ils ne sont pas en prison, mais qu'en vérité, on est de plus en plus tous enfermés à l'extérieur. Il y a un truc aussi qui est assez intéressant en tous les cas aussi à noter, c'est que, enfin, l'arrivée du Parti Socialiste au pouvoir. Donc dans un premier temps, les prisonniers ont beaucoup d'espoir et pensent qu'il va se passer des tas de choses plutôt bénéfiques et intéressantes pour eux, puisque le PS arrivant au pouvoir, arrivait avec un certain nombre de points, et notamment celui de la suppression de la peine de mort, la suppression des QHS, les parloirs libres, et un certain nombre de points qui étaient quand même assez importants pour la vie des prisonniers dans leur quotidien. Dès le début des années 80, les prisonniers sont obligés de se mettre en lutte pour voir ces choses-là se mettre en place. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que les QHS ne ferment pas, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en QHS, et que les parloirs sont toujours avec des vitres de séparation. À l'époque, il y avait un hygiaphone donc, entre le prisonnier et sa famille. Les prisonniers commencent à se mettre en mouvement. Il y a des mouvements de lutte assez durs, et notamment celui de se tailler les veines collectivement. Enfin, il y a des choses assez violentes, histoire de marquer l'opinion publique, de faire réagir l'opinion publique. L'EPS, pas cède, mais applique ce qu'il devait mettre en place. Donc ils abolissent les QHS en 82 pour immédiatement, et ça qui est intéressant, parce que pour nous qui étions sur la question carcérale, on s'est rendu compte tout de suite de l'hypocrisie du Parti Socialiste. C'est-à-dire qu'ils suppriment les QHS, mais ils mettent immédiatement en place les quartiers d'isolement. Et c'est strictement la même chose. Il y a des témoignages dans le bouquin qui retracent ça, mis à part le fait que l'ensemble des meubles étaient scellés en béton. Là, il y a juste des petits aménagements, mais enfin de l'ordre du dérisoire, quoi. C'est un tabouret amovible, enfin des conneries, des trucs qui ne changent pas fondamentalement la question de l'enfermement en isolement. Sur la question des parloirs libres aussi, les prisonniers sont obligés de se battre, puisqu'ils ne suppriment pas les vitres. Suite au mouvement, ils enlèvent juste la vitre, mais l'encadrement reste. Et encore aujourd'hui, dans certaines prisons, en tous les cas de la région parisienne, je ne sais pas comment ça se passe ici, il y a toujours le muret de séparation. Alors que théoriquement, dans les textes, il ne devrait plus y avoir de séparation entre la famille et le prisonnier. C'est une lutte qu'il faut poursuivre, hein, qu'il faudrait poursuivre. Donc dans un premier temps, les prisonniers se battent pour ça. Et très rapidement se rendre compte que avec l'allongement des peines, ils partent pour des peines complètement infaisables et qu'il faut demander l'aménagement des peines, il faut demander l'application des conditionnels, des grâces, de toutes ces choses-là. Et en plus, dès le début des années 80, le pouvoir commence à renier sur tout ce qui est réduction de peine, etc. Bon, c'est un mouvement qui se poursuit, hein, puisque là, je regardais les textes, mais au début des années 80, les prisonniers avaient droit à 9 mois de réduction de peine par an, dans certains cas, c'est-à-dire si tu passais des examens. Enfin bon, après, il y avait tout un tas de choses qu'il fallait faire. Là, aujourd'hui, on en est à 3 mois, avec un mois obligé, si t'es récidiviste. Enfin bon, ça a vraiment, tu vois, au fur et à mesure, ils ont vraiment petit à petit renié sur tout ce qui était réduction de peine, etc. Je voulais revenir aussi sur la question de la suppression de la peine de mort, puisque c'est vraiment le gros truc à chaque fois qu'on nous parle de l'arrivée au pouvoir du Parti Socialiste. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la réalité, dès les années 70, ils avaient préparé le fait qu'ils allaient abolir la peine de mort, puisque la France était le dernier pays à maintenir la peine de mort sur toute l'Europe. Donc, ce qu'ils étaient obligés en construisant l'Europe de revenir sur cette question-là, ça n'a pas du tout été pour d'autres raisons. Ils ont mis en place donc les peines de sûreté, et ça en vient aujourd'hui à avoir des textes qui sortent de Clairvaux en 2005 qui disent « ne soyez pas hypocrites, rétablissez la peine de mort, au moins comme ça ce sera clair ». Puisque à la fin des années 70, une peine maximum, quand les mecs ils se retrouvaient avec des peines de perpétuité, au finish, les peines maximum étaient d'une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est sur des peines à vie. C'est-à-dire les mecs se tapent des 30 ans, des 40 ans, des peines complètement hallucinantes. Donc plutôt que de faire mourir les gens à petit feu, des prisonniers ont réclamé pour eux-mêmes le rétablissement de la peine de mort en disant au moins comme ça vous serez clair. Vous ne nous laissez aucune perspective, donc soyez clair.
Il est 7h du soir, la nuit tombe.
Et la nuit qui commence pourrait bien être des plus mouvementées.
Quand la vie des autres nous enferme, quand le stress persévère, quand on déferme nos sœurs et nos frères, quand il nous reste qu'une seule vision de la vie, t'as fou par la vie, ouais ouais, t'as vu un ciel qui se dégage par ici, ni vieux ni maître, ni esclave, ni possi, RK, une goutte de plus dans cet océan de merde, en attendant que ça déborde et que ça gêne, si ça gêne, y'a pas de problème, y'a pas de paix, on noira les obstacles, on vénère pas sans frais, s'il en faut des cramés, y'en aura, le pire produit de ce système réuni, crois-moi, file-moi du œuf que je l'allume mon coco, ma sens, ma ville, j'en fais un bras zéro, une île de feu de bombée à Mexico.
con. En raillant ou en solo, on repart à zéro. Mélancolique, j'm'agite et pose avec ma clique sur speed. Mécanique, mécogite, multitep, claustrophobique. Déteste, déteste sur rythmique, anthropophagique. Et si y a un hic, on se kick. Quand l'apparence et l'ego trip. Quand l'ignorance des médias et des politiques flics reste descendre de ce qu'ils sèment logique.
Une nouvelle dépêche vient de tomber.
La propagande marche mieux que jamais. L'invasion des jeunes à capuche les effraie. La rage face à l'oppression, la haine, l'interprétation, la prédation des ragoteurs, les chaînes et les stations toujours à l'heure, à l'affût du sans-cesse pour faire leur peur qu'ils crèvent. RK, file-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma zone, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raillant ou en solo, on repart à zéro. Antifa, il sera jamais trop tard pour abattre ces bâtards qui sont bombeurs sous en costard. Cossa, tes initiales CNS et ça me rappelle vaguement quelque chose. La vieille France s'enfonce et on s'étonne. Comme des tons mousses à voter sans vergogne. J'ai déjà dit mais je le répète, c'est clair, l'illusion démocrate est un fait. Les caisses brûlent et alors la Saint-Jean avant l'heure. Mon prétexte pour la preuve nous foutre un hélico sur le pif. Casse dédiée aux émeutiers qui n'attendent plus que le temps passe. Ça fait la une et la presse s'anime. Une seule représentation des victimes. Les honnêtes citoyens devenus piétons. Les pauvres commerçants et leurs ruines. Tous participent au capital qui ne s'étonne pas d'être une cible remarquable. Pas assez de banques brûlent à mon goût. Mais ma faute, mes bras tremblent et mes genoux. Trop conditionnés, je sais chaque jour tirer mes pertes. Mais plus facile comme tout le monde d'être def. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma zone, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico. En raillant ou en solo, on repart à zéro. File-moi du œuf que je l'allume mon coco. Ma zone, ma ville, j'en fais un bras zéro. Une ligne de feu de bombée à Mexico.
Voilà, donc vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon. Et bah, juste pour situer pour ceux qui sont arrivés en route, là on était en pleine interview, enfin pas interview. Au plein enregistrement, écoute de l'intervention de Nadia Méninger à propos de son livre « À ceux qui se croient libres » sur le détenu longue peine Thierry Chadby. Voilà, et on finit d'écouter le morceau et on reprend donc sur cette intervention.
R-Y-O-J-O-R-D-O R-K-06-6
Un début de journée anormalement calme qui s'est terminé par des échauffourées sur l'une des principales artères de la ville, symbole d'un capitalisme triomphant.
Comme dans les années 80, en tous les cas au début, il y avait beaucoup moins de chômage qu'aujourd'hui, les mecs étaient à l'intérieur de la détention. Souvent, c'était des gens qui avaient refusé le monde du travail, qui étaient plus sur une dynamique de rejet d'une certaine réalité et donc qui rentraient à l'intérieur de la détention avec une certaine colère ou une certaine révolte. Donc à l'intérieur, il y avait dans ces mouvements à peu près 500 à 1000 prisonniers qui étaient capables de se mobiliser pour pouvoir se mettre en lutte et donc participer à ces mouvements. Et il y avait une espèce de morale de la délinquance qui voulait qu'il y avait des comportements qui étaient inadmissibles, notamment celui de parler lors d'un interrogatoire devant la police. Enfin, je veux dire, les balances étaient particulièrement mal considérées à l'intérieur de la détention. Tu participais pas à un acte crapuleux. À l'intérieur de la détention, tu avais une attitude claire par rapport à l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire les prisonniers, en tous les cas, qui étaient en lutte, qui se battaient à l'intérieur et majoritairement, n'avaient pas de rapport de connivence avec les matons ou avec l'administration pénitentiaire. Chose qui a énormément évolué et changé aujourd'hui. C'est une chose aussi qui a pas mal évolué à l'extérieur d'une manière générale, même vis-à-vis des flics ou des forces de l'ordre, malheureusement. Au début des années 80 aussi, il y avait vraiment... Enfin, moi, je me rappelle de La richesse des lettres. Je trouvais ça intéressant que vous puissiez lire à la fois ce qu'ils pouvaient écrire et aussi la richesse de ce qui pouvait s'échanger, quoi. Des critiques qui pouvaient être faites à la fois de la société qui génère la prison, mais aussi de la prison elle-même. Et aussi, parce qu'à l'intérieur, bien sûr, il y avait différentes tendances. Il y avait et ceux qui étaient contre la prison et ceux qui étaient contre les quartiers d'isolement, mais qui trouvaient que la prison avait une forme de... Enfin, que c'était normal qu'elle existe. Et puis, il y avait une autre catégorie qui était plus des prisonniers qui étaient pour des réformes, un aménagement des conditions de détention. Mais n'empêche que, quand même, ils arrivaient à se mettre d'accord sur la mise en place de mouvements de lutte ou de résistance à l'intérieur. Je voudrais faire un point particulier sur la question des quartiers d'isolement, parce que ça a vraiment été une des revendications centrales dans les mouvements de prisonniers. Pourquoi ? Parce que tous les prisonniers qui se battaient à l'intérieur ou qui essayaient de s'évader se retrouvaient en quartier d'isolement. dans les quartiers d'isolement, il y avait à peu près 500 prisonniers qui y étaient. Donc du coup, tous les rebelles, tous les gens qui se battaient se retrouvaient dans les quartiers d'isolement. Au début des années 80, les mecs, et on le voit bien à travers l'itinéraire de Thierry, ils faisaient des 6 mois, après ils ressortaient, après ils refaisaient 6 mois. Enfin bon, il y avait, ça sortait, ça rentrait des quartiers d'isolement. Et après, on se rend compte que dans les années 90, tu pouvais très bien se taper des 5 ans d'affilée. 5 ans de quartiers d'isolement d'affilée. Alors on a du mal à s'imaginer ce que ça peut être, la détention en quartier d'isolement. Ce qui était vachement difficile pour les prisonniers à l'époque, c'était de faire comprendre d'abord aux gens que les quartiers de haute sécurité et les quartiers d'isolement, c'était strictement la même chose. Comme il y avait eu énormément de luttes dans les années 70, les gens étaient sensibilisés sur cette question-là. Il y avait eu des mobilisations. Donc tu pouvais, tu vois, jouer sur cette fibre-là en disant « Mais attendez, vous vous êtes battus sur les quartiers de haute sécurité. Les quartiers d'isolement, c'est la même chose. Continuons à nous battre. Continuons à dénoncer et à abolir cette forme de torture blanche. » Il fallait faire comprendre à l'intérieur de la détention que les quartiers d'isolement, ils pouvaient être pour tout le monde et que n'importe quel prisonnier pouvait se retrouver à l'intérieur des quartiers d'isolement à partir du moment où, à un moment, ils réagissaient ou ils se battaient contre leur détention. Donc que ça concernait l'ensemble des prisonniers et pas seulement les 500 qui s'y retrouvaient. Et puis essayer d'expliquer les conséquences de l'isolement sur le prisonnier. Alors ce qui est important, c'est que les conséquences, aussi bien psychologiques que physiques, elles sont, on peut dire que le prisonnier enfermé ressent exactement les mêmes symptômes qu'un mec en quartier d'isolement ou une nana en quartier d'isolement, sauf que c'est décuplé en quartier d'isolement. S'imaginer être enfermé 24 heures sur 24, seul, pendant des semaines, des mois, voire des années, on a du mal à l'imaginer. C'est quelque chose de difficile de voir les troubles digestifs. Bon, Thierry a essayé d'expliquer ce que ça pouvait engendrer sur l'organisme. Les difficultés, la nervosité, les plaques qu'on peut avoir sur le corps parce que trop de tension, trop de nervosité. Beaucoup de gens qui commençaient à péter les plombs parce qu'ils parlaient tout seuls, parce qu'ils n'avaient plus de miroir, parce qu'ils ne pouvaient plus parler à personne, échanger avec personne. À l'intérieur, les prisonniers, ils essayaient absolument de lire énormément. On parlait tout à l'heure de comment réagir face à cet enfermement. Et c'est vachement dur parce que ça veut dire qu'il faut lire, il faut essayer de continuer à s'instruire. Il y a des gens, ils parlaient tout seuls, ils lisaient à haute voix, ils essayaient de réciter des poèmes tout seuls dans leur cellule pour voir si leur mémoire, elle continuait à fonctionner. Moi, j'ai pu voir mon frère parce qu'il a fait 5 ans d'isolement, donc j'ai pu voir son visage. Je veux dire, quelqu'un qui est en quartier d'isolement, il n'a plus d'expression de visage, il est gris et il est complètement tendu. C'est vraiment qui est complètement destructeur. Et je pense que des prisonniers qui sont passés par les quartiers d'isolement de longue durée, c'est quelque chose, c'est des séquelles à vie qu'ils garderont toute leur vie. À l'intérieur, il y avait à peu près 500 à 1000 mecs donc, qui étaient capables de se battre et qui réclamaient la suppression des quartiers d'isolement et qui menaient des luttes et des mouvements relativement forts et violents pour la fermeture de ces quartiers d'isolement. Mais en même temps, tu avais parallèlement, et c'est assez curieux, c'est-à-dire pas du tout d'une manière liée, les prisonniers politiques basques ou d'Action directe qui menaient des luttes pour la suppression des quartiers d'isolement pour eux-mêmes. Donc c'était un petit peu compliqué parce qu'à la fois, au lieu de rassembler les forces, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, il y avait ces deux mouvements parallèles à l'extérieur aussi, où des gens, des intellectuels, des familles se mobilisaient pour la fin des quartiers d'isolement pour les prisonniers d'Action directe, pour les prisonniers basques. Ça a posé un certain nombre de questions et de difficultés du coup pour lier les deux mouvements ensemble. Dans cette dynamique d'essayer de créer des mouvements qui regroupent de plus en plus de prisonniers, à la fin des années 80, les prisonniers avaient réussi à organiser, donc sur les 5 points que j'énonçais tout à l'heure, un mouvement national qui a regroupé 6000 prisonniers. C'est-à-dire le même jour, ils ont fait une grève de la faim. Enfin, chacun faisait ce qu'il pouvait. En fait, ça pouvait aller du refus de plateau à ce qu'il pouvait. Et il y a 6000 prisonniers sur l'ensemble de la France qui s'est mis en lutte en même temps pour ces 5 points. C'est quand même pour dire à quel point il y avait quand même, à la fois grâce au collectif à l'extérieur, aux émissions de radio, mais aussi au transfert des prisonniers qui faisait que les mecs, comme ils étaient trimballés de prison à prison, ils pouvaient discuter ensemble et du coup s'échanger leur expérience de lutte et discuter de toutes les modalités que pouvait prendre cette lutte. Ils ont réussi à faire un mouvement de cette ampleur-là, ce qui est quand même assez important, quoi, assez impressionnant. Et aussi une autre chose que je voulais dire, parce que j'avais été assez étonnée en faisant des recherches justement sur les différentes luttes qu'il y avait pu avoir dans les années 80, de constater qu'en 86, il me semble, en 88, 86, à la santé, il y a eu 400 prisonniers qui ont refusé les plateaux pour se battre contre les lois Pasqua. Sur la question justement de la restriction des droits pour les étrangers en France, en soutien aux luttes qu'il pouvait y avoir à Lyon à l'époque. Il y avait eu une grève de la faim sur ces questions-là. 400 prisonniers s'étaient mis en... Pour montrer le lien qu'il pouvait y avoir entre l'intérieur, l'extérieur, et sur des questions qui étaient du coup beaucoup plus sociales et politiques et qui ne regardaient pas forcément leurs conditions de détention. Pour dire que, si tu veux, sur les quartiers populaires, il y avait des gens qui étaient en lutte, et quand ils se retrouvaient à l'intérieur, ils poursuivaient cette réflexion et cette lutte avec d'autres. Mais je trouve que ces deux exemples illustrent assez bien le fait qu'il y avait moins de séparation entre l'intérieur et l'extérieur.
Ce qui ressort de là, c'est que Thierry, à chaque fois, il se laisse pas faire par la détention. C'est ça aussi qui, à chaque fois, remet une couche. C'est que bah, il est toujours à vif et puis il se laisse pas faire.
Ouais.
C'est pour ça aussi peut-être qu'il est considéré comme dangereux, parce que il se laisse pas faire à chaque fois.
Souvent, on a, nous, aujourd'hui, où il y a un petit peu moins de lutte, une espèce de vision, comment dire, un petit peu idéalisé des mutineries, où on a l'impression que du jour au lendemain, on fait une mutinerie. Alors qu'on voit bien là, à travers les expériences de Thierry ou de Q, que la question de la lutte, c'est vraiment une mobilisation quotidienne. C'est-à-dire que ces mecs-là, tous les jours, ils se battaient. Et Q, ce qu'il dit, c'est nous, à partir du moment où il y avait un mouvement, c'était bon. S'il y avait un prisonnier qui était prêt à se battre pour avoir des yaourts, parce qu'ils n'étaient pas en cantine, ou pour avoir une connerie, peu importe, eh ben, on se mettait tous, on faisait une pétition, on s'en foutait, c'était un début. Et à partir du moment où il y a un mouvement, il y a de la vie. Et moi, je trouve que c'est assez intéressant, parce que c'est dans la construction de ce mouvement que tu commences à discuter, que tu commences à remettre en question la réalité de ce que tu vis, que tu commences à imaginer comment tu pourrais, ce que tu pourrais construire ensemble, la force que tu peux représenter, éventuellement le fait de gagner sur les yaourts, qui est relativement dérisoire, ça veut dire aussi que tu peux gagner éventuellement sur autre chose. Et il y a eu des luttes qui étaient vraiment aussi très intéressantes. Par exemple, le fait de refuser les fouilles à corps. Imagine que pour vous tous, vous voyez un peu ce que ça peut être d'être palpé. Déjà, c'est quelque chose d'assez pénible. À l'intérieur de la détention, ou comme dans les commissariats, quand on fait une garde à vue, on met les prisonniers à poil. Donc c'est une situation relativement avilissante et humiliante. On demande à la personne de tousser, de se baisser et de tousser. Donc un certain nombre de prisonniers avait refusé cette humiliation et du coup disait: moi, vous me touchez pas, vous me mettez au mitard si vous voulez, mais moi j'y vais, je me mets pas à poil, je tousse pas. Et donc du coup ça engorgeait les mitards, ce qui faisait qu'après il y avait plus de cellules de punition disponibles, et que du coup ça crée un problème de fonctionnement à l'intérieur de la détention. Les prisonniers basques utilisent vachement cette technique d'engorgement des mitards pour faire dysfonctionner la prison. Et du coup, sur certaines prisons, comme sur Fresnes, à un moment, ce qu'explique Q, et ben, ça fonctionnait. C'est-à-dire, pendant un certain nombre de mois, ils ont réussi à ne pas être fouillés. C'est des victoires, c'est des petites victoires qui font que tu gagnes ta dignité dans ces victoires-là. Et à travers ces luttes concrètes qu'ils arrivaient à arracher, ces victoires qu'ils arrivaient à arracher, et ben ça leur permettait de savoir qu'ils étaient une force à l'intérieur et qu'ils pouvaient à des moments faire plier l'administration pénitentiaire collectivement. Et moi je trouve que c'est pas rien, quoi. Tout ça s'est passé donc dans les années 80. Et après, ce qui se passe, et c'est ce qui est décrit Q, c'est que l'administration pénitentiaire, l'administration d'une manière générale, c'est une machine très très lourde, mais qui tire les enseignements de ce qui se passe. Et que d'abord, à chaque fois qu'une prison était détruite, elle était reconstruite avec tous les moyens de sécurité moderne, qui faisait que c'était de plus en plus difficile aussi de mettre des mouvements en place. Il y a aussi le fait que les périodes d'isolement étaient de plus en plus longues. Donc, du coup, les prisonniers étaient enfermés dans des quartiers d'isolement. Ils ne pouvaient plus s'organiser et mettre en place. Et puis étaient saccagés par les quartiers d'isolement. Et puis, il y a eu aussi, au fur et à mesure des mutineries, les mutins se prenaient des peines supplémentaires, des 2, des 4 supplémentaires non confusionnables. Donc ça aussi, ça calme un petit peu. Au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est bon. Et puis, je pense aussi, et ça, c'est vraiment une réflexion qu'il faudrait qu'on ait tous, parce qu'elle traverse vraiment l'ensemble de la société, cette volonté d'individualiser, c'est-à-dire de faire vraiment passer le fait qu'il n'y a plus de cause sociale, politique, économique à l'enfermement. C'est-à-dire c'est pas la société qui dysfonctionne et qui fait que ses membres sont obligés à un moment d'aller prendre ce qu'on leur donne pas ou ce qu'ils pourront pas avoir. C'est pas la société donc qui est à remettre en cause, mais c'est l'individu et ses incapacités à s'adapter au monde qui est en train d'évoluer. Donc c'est une responsabilité individuelle. En fait, cette question d'individualiser les peines, le fait de mettre des réductions de peines de plus en plus en fonction du comportement des prisonniers, le fait de leur accorder s'ils payent les parties civiles, s'ils ont un plan individualisé de réinsertion, c'est-à-dire que les prisonniers à l'intérieur de la détention, ils doivent avoir aujourd'hui un plan de réinsertion pour avoir la possibilité éventuellement d'avoir accès aux aménagements de peine. Et toutes ces choses-là font que du coup il y a une pression intenable pour le prisonnier qui pense qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Et c'est la même chose pour un chômeur. C'est le même délire pour un chômeur, mais c'est le même délire pour un travailleur. Il a des objectifs intenables qui lui mettent une pression pas possible, tu vois.
En plus, il a une peine de 32 ans. C'est dommage qu'on soit pas là, notre ami Sandrine, qui a son pote, il a 40 ans, à purger, et il lui demande de se projeter aussi. Il sortira, il aura 60 ans. Mais...
Ça tombe bien si tu cites de plainte, parce que la personne qui a les moyens d'indemniser les parties civiles, l'exemple de Cantor qui est pénitent, il est sorti au bout de 4 ans parce qu'il a payé les parties civiles. C'est pour ça qu'il a une réduction de peine.
Tous les prisonniers sont des prisonniers politiques. Parce qu'à travers leur situation, c'est la société qui se reflète. Donc ils témoignent à partir de leur réalité de la société, d'un dysfonctionnement ou du fonctionnement de la société. Parce que souvent, si tu veux, quand tu discutes, par exemple avec les associations des droits de l'homme, tu vas voir le syndicat de la magistrature, machin, ils vont te parler avec beaucoup d'aisance de la question de la criminalisation du mouvement social. Tu vois, ça c'est inadmissible. Un militant qui se fait incarcérer, un militant qui essuie une garde à vue ou une perquisition chez lui, c'est horrible, ils ont tout cassé. Mais t'as envie de leur dire, mais les mecs, là, vous planez ou quoi? Ça existe partout. Quand un flic qui descend dans un quartier populaire et qui fout les parents à genoux ou à plat ventre devant leurs enfants et qui commence à casser la porte, et c'est des pratiques complètement banales. Mais c'est dégueulasse et on doit s'insurger contre ça aussi, parce que ça, c'est une pratique qui annonce les autres. Et c'est parce que ces pratiques-là, elles existent, qu'après on va aussi incarcérer un militant parce qu'il manifeste ou parce que c'est global. C'est une situation globale de flicage, de fichage et de répression qui s'abat sur l'ensemble de la société. Et dénoncer un crime raciste et sécuritaire, dénoncer aujourd'hui mettre 2 ans pour un outrage, c'est une violence insoutenable. Pour moi, c'est inadmissible. De la même manière, et j'ai pas envie de mettre des échelles de valeur, que un mec qui se fait arrêter dans une manif parce que je sais quoi. Pareil. cette idée de l'enfermement comme solution, elle va être de plus en plus ancrée dans les têtes des gens. Et c'est pour ça aussi, si tu veux, que toutes ces questions-là, elles doivent être discutées partout, dans les écoles, avec les instituteurs, quand ils laissent rentrer les flics dans les écoles pour faire leur putain de discussion sur la toxicomanie et je sais pas quelle connerie. Un flic, ça n'a pas sa place dans une école. Non, mais tu vois, c'est cette logique qu'il faut arriver à dénoncer. C'est vrai aussi que, par exemple, là, quand il y a des mouvements sociaux d'instit, de peu importe, tu vois, mais même de mecs de la RATP, de la SNCF, tu vas les voir, tu leur dis, attendez, là, quand vous chopez un sans-papier ou quand vous chopez un mec qui n'a pas payé, vous voyez ce qui se passe? Vous savez ce que ça signifie pour ces gens-là? Je veux dire, ça va la collaboration, tu vois. Il y a un moment où il faut quand même savoir de quel côté on est. Tu vois, est-ce qu'on est du côté du pouvoir, de la répression, ou est-ce qu'on est du côté de l'avenir et d'une société différente?
Voilà, bah, si vous n'avez pas pu être donc ce vendredi 30 avril à la dérive, par exemple si vous êtes enfermé à la Talo, et ben donc c'était une restitution d'une partie de ce qui a été raconté par Nadia Méninger et quelques membres du public. Donc je rappelle sur le livre qu'elle a écrit à ceux qui se croient libres. Voilà. Et moi je voulais juste finir sur un ou deux commentaires. C'est qu'en fait, pendant cette soirée, finalement, on n'a pas eu le temps de parler de comment ça pourrait nous inspirer pour aujourd'hui. Alors, ça fait un peu nostalgique, tu vois, genre trop bien dans le passé. Les prisonniers luttaient, ils étaient trop forts, et nous, dehors, on pouvait machin et tout. Et puis, moi, je voulais juste préciser qu'il ne faudrait pas le prendre comme un exemple. Voilà, il faut faire ça parce qu'ils le faisaient avant, c'était bien. Voilà, les choses, elles ont changé. Et c'est super important de connaître l'histoire des prisons et des luttes qu'il y a eu à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pour s'inspirer. Mais maintenant, il nous reste à se poser la question de comment on lutte aujourd'hui dans les prisons, dehors, en lien entre dedans et dehors. Et voilà, c'est juste qu'en faisant le montage, j'avais l'impression que ça restait sur un truc hyper négatif et pessimiste de « avant c'était bien, aujourd'hui c'est horrible » et tout.
Puis, voilà. C'est juste bien de comprendre aussi qu'il y a plein de choses qui ont été obtenues parce qu'il y a des gens qui se sont bougés à l'intérieur et que c'est pas venu de nulle part aussi. Quoi.
Ouais, à peu près, oui, c'est vrai. Tout a été obtenu par la lutte, quoi. Les pseudos avancés et tout. Voilà.
Oui, et puis c'est ce que Nadia parle aussi... Dans l'interview, en fait, c'est aussi prendre en compte qu'on en a beaucoup discuté, que peut-être les conditions aujourd'hui sont différentes, que ce soit en prison ou ailleurs, dans le monde du travail, etc., que les choses sont plus individualisées, que c'est toujours un mélange de pression, séduction, etc., et que peut-être voilà, les luttes, elles prennent des formes différentes, elles restent à inventer, etc., mais que du coup, on n'est pas non plus dans les mêmes conditions que dans les années 70 ou 80.
Mmh. Ouais, voilà. Et sinon... Tu voulais dire quelque... Non. En fait, pour donner quelques précisions, dans ce montage-là, vous avez entendu de la musique, c'était Anne Bateau, et le morceau de hip-hop, c'était Radical Crooners, avec la chanson Brasero. Et dernière précision, ce livre-là, donc à ceux qui se croient libres, il est rentré dans des prisons, d'une manière très simple, j'y aurais pas cru, moi, par les parloirs. Donc déjà, moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'au parloir, on avait le droit d'amener des livres. Donc, il faut que le détenu demande l'autorisation. Et en plus, même ce livre-là, qui est quand même un peu anti-prison, il est rentré. Donc, nous,
il se peut qu'il soit refusé au premier, mais il faut retenter, quoi.
Voilà.
Enfin, la première fois, mais il faut retenter.
Ouais. Donc, en tout cas, nous, on en a. On vous redonnera nos contacts à la fin de l'émission. Et puis, il faut les faire rentrer par quelqu'un qui va au parloir. Il faut essayer si ça vous intéresse.
Et après, voilà. Vous les prêtez, c'est aussi une solidarité.
Oui, c'est beau.
C'est un début. Voilà. On va faire une petite pause musicale après tout ça. Donc on va passer. Vas-y.
Un morceau de Jill Scott Heron.
Thank you. Allez, et maintenant, c'est la rubrique du « Ça m'énerve
ouais. !» Sur Papillon, hein.
Oui, toujours, on est sur Papillon 89.5. Et cette semaine, j'ai pris les nerfs sur un petit fait, pas un petit, non, sur un fait. Alors, c'est des mômes, dont le mien, qui reviennent de l'école et qui se retrouvent devant la charité. Ils sont quatre, il y en a deux qui s'embrouillent comme ça sur le trottoir, mais rien de... Les mômes, quoi, 12-13 ans. Et arrive une bagnole. Bon, la bagnole s'arrête et ce sont des flics habillés en civil, voiture banalisée. Ils se mettent le brassard police, ils relèvent un peu le t-shirt pour montrer aux gamins qu'ils ont des flingues. Et ils interviennent sur le trottoir. Ils leur ont demandé les carnets de correspondance. Super. Donc les mômes, ils sont hyper impressionnés et ils ont filé les carnets et ils ont écouté ce que leur disaient les keufs, papapap, c'est pas bien, et voilà. Donc moi ça m'énerve vraiment parce que je me dis, bon Saint-Étienne est parti apparemment dans un truc de, est une ville test pour démantèlement des gangs, pour les réseaux de cam, des trucs comme ça. Et donc, apparemment, j'ai l'impression qu'il y a vachement de flics qui tournent partout. Et ils commencent à démanteler les petits gangs sur le trottoir, demander les carnets aux gamins. Et est-ce que c'est pour habituer, comme tout à l'heure on parlait des fichiers et ficher tout le monde sur tout ce qu'on fait, est-ce que c'est pour, dès le plus jeune âge, habituer les gamins à des contrôles et qu'ils trouvent ça logique que dès qu'ils sont sur le trottoir, quelques-uns à rigoler, on leur demande direct les carnets qu'ils doivent s'y soumettre, quoi, parce que c'est la police. Donc voilà, j'étais un petit peu, je suis bien énervée contre ce genre de pratique.
Ils ont le droit de mettre des mots ? Dans le carnet.
Ah, écoute, ils n'ont rien mis, hein, ils ont regardé. Alors, je disais, ouais, ils ont regardé les carnets. Voilà. Alors,
c'est pas tardé. C'est comptabilisé dans les chiffres de la délinquance ?
Eh bien, peut-être bien. La question, elle est là. Ils n'ont pas noté. Ils ont dit non, ils n'ont pas noté les noms, rien. Mais est-ce qu'ils ont retenu ? Enfin, on sait, enfin, j'en sais pas plus, quoi. Et ils sont repartis. Voilà.
Enfin, le truc qui est, enfin, qu'il faudrait peut-être. Peut-être à creuser, ça serait ce truc de, on voit chez les gamins de la violence, de la délinquance partout, alors que des gamins qui chahutent, c'est rien de plus banal. Et qu'on, enfin, je sais pas, je prendrais un truc, par exemple, là, il y a l'exemple à mes yeux, le PM de mes yeux, où en fait les gamins, ils n'ont pas le droit de fumer de clopes. Donc quand tu fumes tes clopes, peu importe l'âge que t'es et que t'as plus le droit de fumer des clopes d'un coup, c'est un peu chaud quand même. Et sur ces trucs de santé publique, enfin tout ce discours hyper aseptisé, etc., où les enfants, il faut pas qu'ils fument, il faut pas qu'ils parlent trop fort, etc. Alors que je sais pas, enfin, on a l'impression même que c'est nouveau en fait que des gamins fument et tout, alors que je pense nos grands-pères, ils ont fumé leur première gitane à je sais pas quel âge. Moi, mon grand-père, il buvait le vin rouge à l'âge de 4 ans et c'est des comportements qui n'étaient pas du tout considérés comme déviants et qui maintenant, pour des gamins, sont considérés comme déviants. Donc, il y a vraiment un truc.
Oui, il y a quelque chose qui se pose là.
Non, je voulais juste revenir. Du coup, ça fait un lien aussi avec l'interview de Nadia où je trouvais intéressant ce qu'elle disait et que c'était cet ensemble de petites choses que souvent on a tendance à accepter et que pour moi, la rubrique ça m'énerve, c'est aussi ça, c'est ces petites choses qu'au final. On laisse plus ou moins passer. Et par exemple, sur cette histoire de la BAC sur des gamins, moi j'ai l'impression que je suis pas très vieille, hein, mais j'ai l'impression que par exemple, même ceux qui ont 18-20 ans maintenant, eh ben ça, ça se passe couramment.
Oui, c'est ancré dans un quotidien que nous on n'a pas.
Voilà, que moi j'ai pas connu à cet âge-là. Et par exemple, même des gamins qui ont 10 ans et qui font rien du tout et qui se font plaquer sur le capot de la BAC, eh ben il y en a plein. Et moi, jamais j'ai connu ça. Et c'est cet ensemble de petites choses.
Moi, ça m'était arrivé quand j'avais 10 ans.
Ça t'était arrivé, toi ?
Ouais, bref.
Ouais, mais si t'étais membre d'un gang à 10 ans, fallait pas t'étonner.
Non, j'avais 13 ans.
Ça,
en
on
fait.
N'y peut rien. Hein.
Enfin, bref. Après, je vois ce que tu veux
on
dire.
On en apprend.
Ce que tu
veux. Ouais,
oui. Mais c'est comme les flics qui demandent l'autorisation, toujours avec au proviseur. Ça va, on m'entend ? Au proviseur de. Lors d'une vulgaire bagarre de cour, en fait, les flics peuvent rentrer avec de plus en plus l'aval des proviseurs, quoi. Enfin, c'est un truc avec des collégiens de 10-12 ans, quoi. Donc, c'est un peu la même chose, quoi. Peut-être qu'un jour, ton fils verra dans son collège les flics arriver. régulièrement, quoi.
Et du coup, on va peut-être passer sinon à l'envolée, non?
Ouais.
C'est ça?
Je sais pas, on a... Bah, je, ouais.
Ouais, ouais.
On a, ouais, c'est vrai qu'on n'a plus trop le temps. Mais
ouais, je t'ai coupé.
C'est vrai que t'as coupé en plein milieu. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Bon, alors.
Courtoisie.
C'est pas grave.
Du coup, oui, alors, on va vous présenter donc, le dernier envolé. Bon, envolé, journal contre les prisons, qui existe depuis plusieurs années maintenant. Donc, alors, on va présenter vite fait le sommaire hein, de ce qu'il y a. Donc, il y a un retour, en gros, sur la campagne contre les longues peines. Avec plusieurs interviews donc de personnes bah, concernées ou qui se battent contre les longues peines ou qui ont des proches voilà des proches en prison de proches de longues peines etc. Donc ils reviennent un peu sur cette campagne. Il y a aussi une interview de Martine El Chenaoui qui est la femme de Philippe El Chenaoui qui est aussi un détenu longue peine voilà qui avait pris je crois que c'est lui qui avait pris qui avait non c'était pas lui donc autant pour moi non parce qu'après il y a une autre interview de d'une autre personne qui est Chantal Courtois voilà qui est la femme de celui qui avait pris la cour d'assises en otage la cour d'assises de Nantes il y a très longtemps enfin bon bref, voilà il y a un dossier en fait il y a plusieurs comptes rendus de procès notamment le compte rendu de procès d'évasion de Christophe Kider, etc., pour une tentative d'évasion, et un procès aussi d'Antonio Ferrara et de Christophe Kider. Donc voilà. Il y a aussi un long compte-rendu du procès de l'incendie du centre de rétention de Vincennes, et puis bon, bah, plusieurs petits dossiers, notamment sur le viol, sur le cas de la grippe H1N en détention et tout, qui est assez intéressant. Et surtout, il y a plein de courriers, de témoignages, de détenus. Donc on rappelle que l'envolé, il doit passer normalement en détention. Hein. Il y a un article.
Il passe à la talo.
Il passe à la talo. Il y a même, s'il passe pas, il y a un article de loi qui s'appelle l'article D444 du Code de procédure pénale, qui dit qu'en gros, tout détenu peut avoir n'importe quel journal de leur choix et il y a que le garde des Sceaux qui peut le retenir donc il rentre, alors si vous êtes intéressé pour vous procurer donc, le dernier envolé vous pouvez leur écrire donc, à l'envolé 43 rue de Stalingrad 93100 Montreuil donc l'envolé 43 rue de Stalingrad 93100 Montreuil alors ça c'est pour se le procurer mais aussi n'hésitez pas à leur écrire si vous êtes à l'intérieur pour témoigner tout simplement quoi. Donc voilà, alors on va passer maintenant, il reste une dizaine de minutes, on va passer à l'agenda.
Ouais, juste, j'étais distraite, je sais plus si tu l'as dit, il l'envoie gratos.
Oui, non, je ne l'ai pas dit, voilà.
Et puis si vous n'êtes pas enfermé, et ben vous pouvez aussi vous le procurer à Saint-Thé. Par exemple, à la librairie de BD, l'étrange rendez-vous, c'est la petite rue juste en dessous de la Bourse du Travail. Voilà. Et donc maintenant, on passe à l'agenda, et c'est moi qui commence. Avec un événement qui va se passer en mai, dont on ne voulait pas spécialement faire la promotion, mais dont on voulait parler vite fait. Donc c'est le Festival Parole et Musique. Donc voilà, il y a plein de concerts de chansons, etc. à Saint-Étienne, qui sont plus ou moins bien, mais moi j'aime pas la chanson de toute façon. Voilà, et donc en fait, non mais c'est juste que ça c'est du 12 au 16 mai. Et dans le cadre de ce festival, ça fait pas mal d'années qu'ils font un truc un peu spécial sur la prison. Donc là ça s'appelle... Parole et musique en liberté. Donc c'est des ateliers d'écriture et des concerts à l'intérieur de la maison d'arrêt de la Talaudière. Donc là, ils annoncent 3 mois d'ateliers d'écriture à la Talo autour de textes d'artistes du festival. Et puis aussi, ils annoncent que tous les soirs de ce festival, dans différents lieux de la ville, il y aura des lectures de textes d'artistes et de détenus. Voilà. Bon, c'est joli, c'est gentil, mais on en avait déjà parlé dans d'autres émissions. Nous, en fait, ce qu'on en sait, c'est que souvent les interventions culturelles en prison, elles sont assez prétentieuses dans la manière dont on les présente à l'extérieur et elles font vachement plus pitié quand on les voit dans leur réalité concrète. Donc là, je dis pas pour ce cas-là précis, puisqu'on ne sait pas exactement comment ça se passe, mais voilà, d'une manière générale, on remarque que c'est pas mal du vent pour se la péter, quoi, je sais pas, ou se donner bonne conscience, faire du pseudo-humanitaire. Mais surtout, en plus, ça s'appelle « Parole et musique en liberté ». Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ce genre... Enfin, moi, à mon avis, c'est pas 3 ateliers comme ça et un concert qui donnent de la liberté, quoi. Enfin, je trouve que c'est limite... C'est du bien-être. Ouais, à la limite, quoi. C'est sympa, hein, mais bon... Et c'est surtout, c'est vraiment se foutre de la gueule de l'idée de liberté. Et je pense qu'il n'y a que quand on est en prison qu'on se rend peut-être compte de ce que ça veut dire liberté. Bref, voilà.
Et aussi, en plus, un autre truc, il y aurait plein de trucs à en dire, mais vous inquiétez pas,
on en reparlera.
Mais aussi, il se trouve que hyper souvent, les prisonniers, quand ils font des ateliers culturels et créatifs et tout ça, ils sont complètement dépossédés de ce qu'ils créent, quoi. C'est-à-dire qu'après, leurs photos, leurs textes, machin, ils sortent. On en fait des expos, des livres, des trucs. Et eux, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils n'ont pas forcément droit de regard là-dessus et tout. Bref, tout ce que je dis, c'est des généralités. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'avoir vos avis et vos infos, surtout si vous êtes enfermé ou si vous l'avez été. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, parce que nous, on voudrait creuser un peu cette question. Donc, je ne sais pas, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de la culture en général et en prison en particulier. Comment fonctionnent les ateliers en prison? Qu'est-ce qui vous apporte? Comment fonctionne l'association socioculturelle à la Talo ou dans d'autres prisons? Où va l'argent des cotisations? Parce que les prisonniers cotisent à ces associations. Comment sont financées les activités culturelles et les intervenants, etc., etc. Voilà, donc si vous voulez nous écrire, comme ça, ça fait l'occasion de redonner notre adresse. C'est émission Papillon chez Radio Dio, 14 bis rue de Roubaix, boîte postale 51 42002 Saint-Étienne, CEDEX 1. Et pour ceux qui ont accès à internet,
émission Papillon tout attaché @riseup.net.
Voilà.
Bon, moi je continue, c'est bon, t'as fini? Sans transition aucune. Je pense qu'on l'a déjà annoncé à la dernière émission, mais du 17 avril au 8 juillet donc, de cette année 2010, a été lancée une campagne pour dénoncer la complicité d'Air France dans les expulsions de sans-papiers. Je vais expliquer pourquoi des dates bien précises jusqu'au 8 juillet 2010. En fait, c'est que le 8 juillet 2010 a lieu l'Assemblée Générale d'Air France et le vote de ses actionnaires. Et donc, une campagne a été lancée un peu pour l'exemple en fait, d'une campagne qui avait été déjà lancée en 2006 pour, par exemple, bon, nous, c'est Air France, mais Air Canada aussi participait à l'expulsion des sans-papiers. Et donc, une action du même type a eu lieu en 2010. Et sous la pression en fait, des personnes extérieures et même des actionnaires, cette compagnie aérienne a arrêté de collaborer en fait, avec les autorités fédérales pour expulser les sans-papiers. Donc, il y a une campagne qui est lancée. Pourquoi Air France? Parce qu'elle joue un rôle essentiel en fait dans l'expulsion, enfin surtout dans le soutien logistique, et elle permet l'expulsion physique de toutes les personnes sans papier. Et
pas de toutes.
Comment?
Non, je disais pas, pas de toutes.
Oui.
Pas de toutes.
Oui.
Et il y a une partie des personnes sans papier, des personnes qui sont sans papier, qui sont expulsées par Air France, mais pas voilà. Toutes les personnes.
Non, pas toutes, mais elle est une grande majorité, quoi. Et il faut savoir que c'est une compagnie civile, voilà, qui est utilisée à des fins policières. Et donc, cette campagne, je le rappelle, a lieu du 17 avril au 8 juillet. Comment y participer? Tout simplement avec des actions individuelles. Donc, vous pouvez très bien vous rendre en tant que citoyen, enfin en tant que client lambda dans des, qu'on appelle ça, les espaces Air France, en demandant pourquoi Air France utilise ses charters pour expulser les sans-papiers. Il y a des actions collectives qui ont déjà eu lieu à Marseille, un petit peu de partout. Donc, ça serait bien que ça soit relayé sur Saint-Étienne. Donc, c'est un peu un bras tendu à l'action. Donc, n'hésitez pas en fait à farfouiller un petit peu sur internet pour ceux qui ont internet pour avoir des idées d'action je sais plus ce que je voulais dire.
Bah, il suffit de passer dans les agences en fait Air France puis de dire au fait t'es un client puis tu fais au fait vous participez à l'expulsion des sans-papiers et puis tu les fais chier 5 minutes puis tu dis j'irai pas voyager chez vous, des trucs comme ça.
Et il faut savoir que voilà,
c'est un peu ça, oui, c'est un petit peu. C'est le but, c'est marrant.
Et le but, voilà, c'est d'influencer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale en fait, d'Air France qui aura lieu le 8 juillet. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser en nombre. Et ça a déjà porté ses fruits avec Air Canada. Donc mobilisez-vous, comme dirait Gérard Holtz.
Pour un petit truc d'optimisme. Enfin, moi, je trouvais que c'était un petit truc d'optimisme. En fait. Ça n'est pas de rien non plus. Et en fait, en farfouillant, en 2007, il y a des élus du comité central d'entreprise qui ont déjà voté une motion qui demandait l'arrêt des expulsions. Donc en fait, il s'avère qu'à un niveau syndical au minimum, à Air France, on se bat déjà contre les expulsions par la compagnie. Voilà. Et pour annoncer aussi très rapidement, parce qu'on est un peu en retard, je crois, il y aura une semaine d'action internationale du 1er au 6 juin 2010. Donc, c'est organisé, enfin, c'est lancé par un collectif anglais qui s'appelle Stop aux expulsions. Et donc, il y aura une semaine d'action coordonnée et décentralisée contre les expulsions. Il y aura des choses à Saint-Étienne. Pour l'instant, ce n'est pas encore très fixé, mais vous pouvez regarder, pour ceux qui ont Internet, toujours sur le numéro 0. Tu ne veux pas le faire, Elsa, vite fait, tu le fais si bien.
C'est le site, c'est sur http://lenumero0.l'autre.net. Et sinon, écoutez l'émission du numéro 0 sur Radio Dio, c'est un jeudi sur deux à midi, et vous aurez des infos. Et voilà. C'est rediffusé à 17h.
Sinon, vous pouvez nous écrire aussi dans les adresses qui ont été données. Et on passe tout à fait à autre chose, vite fait. Alors, le 5 mai 2010, à la fac Amphi E01, dans le cadre de l'Université solidaire, on en avait déjà parlé un petit peu, qui a été une université alternative créée pendant le mouvement de grève pour aller vite, il y aura une intervention à 18h30 sur Facebook. On parlait tout à l'heure des fichiers, donc Facebook, un vaste réseau social, et qui est aussi un moyen de ficher plein de gens. Il y aura une intervention et un débat sur ça, peut-être sur une autre problématique qui est Facebook, machine à exister, point d'interrogation. Donc voilà, ça sera super intéressant. Et ça sera le 5 mai à 18h30 à la fac Tréfilerie, Amphi E01.
Ok, bon bah là, il faut vraiment qu'on laisse l'antenne. Donc big up à Marc, vas-y, t'as quelque chose à dire?
Ouais, j'ai un truc à dire.
Vas-y.
Nabil, si tu nous écoutes, c'est pour dire que j'ai voulu prendre un parloir pour cette semaine, en fait. Et vu que samedi, hier, était férié, tous les parloirs, du coup, il n'y a plus de place. Tout a été rebasculé sur la semaine qui vient et du coup, il n'y a plus de place. Alors, je vais quand même rappeler demain pour voir s'il n'y a pas une tranche horaire sur un tôt le matin. Mais bon, bref, c'est pas gagné. Donc voilà, donc c'est pour dire gros bisous du coup. Et puis, j'essaierai de prendre un parloir dès que possible. Et j'ai pris le parloir comme prévu des autres et tout.
Ouais, et grosse bise à Nabil, toujours pareil. Et tu vas bientôt avoir une bonne nouvelle financière au moins.
Voilà.
Courage
à tous.
Bonsoir à tous.
On rappelle rediffusion le vendredi 14 mai sur Radio Dio à 10h30 et on se quitte avec Cazelle, Libérer la bête.
Elle passe le 16 mai dans Parole et musique. Ouais.
Mais elle passe pas la talo.
Qui doit rejoindre le bétail. Mon nom est un détail et personne ne m'appelle.